RCF.
Samedi 16 octobre dernier, Joël, la sonde Lucie a été envoyée dans l'espace grâce à une fusée Atlas V depuis la Floride. Il s'agit de la première mission de la NASA, l'agence américaine, à destination des astéroïdes troyens de la planète Jupiter.
Ah, Lucie, ça fait penser au célèbre fossile d'Australopithèque, hein, daté de 3,5 millions d'années.
Oui, et c'est pas un hasard. Les planétologues pensent en effet que les astéroïdes troyens, notamment ceux de Jupiter, pourraient être des objets très anciens, peut-être même des planétésimaux primitifs, c'est-à-dire des objets datant de l'origine même du système solaire, semblables à ceux qui ont formé les planètes.
Alors, pour nos auditeurs, peux-tu rappeler ce que sont les astéroïdes troyens, hein? Je suppose qu'ils ne sont pas originaires de la belle cité de Monsieur Baroin.
Non. Pour comprendre ce que sont les troyens, il faut se rapporter aux travaux de l'astronome du XVIIIe siècle, Joseph-Louis de Lagrange. Mmh. C'est un mathématicien français, né à Turin en 1736. Il y fut d'ailleurs professeur de mathématiques à partir de 1753. Mais dès 1772, dans son essai sur le problème des trois corps, il montre que lorsqu'un corps céleste est en mouvement autour d'un autre, comme par exemple la Terre autour du Soleil, il apparaît dans l'espace des points mathématiques singuliers où les attractions des corps se compensent et s'annulent mutuellement. Ce sont les fameux points de Lagrange. On peut en dénombrer 5.
Ah oui, 5. 5 pour le couple formé par la Terre et le Soleil, mais aussi 5 pour les couples formés par chacune des planètes avec le Soleil.
Oui, auxquels s'ajoutent d'ailleurs les 5 points formés par chacune des planètes avec chacune de leurs lunes.
Oui. Alors pour Lucie, il s'agit des points de Lagrange de la planète Jupiter, la plus massive des planètes du système solaire. C'est bien ça ?
Oui, et des 5 points de Lagrange, 3 sont situés sur la droite imaginaire qui relie le Jupiter au Soleil, et même au-delà. Le point L1 se trouve entre Jupiter et le Soleil, à l'endroit où l'attraction de Jupiter est exactement égale à celle du Soleil. Le point L2 se situe sur la même droite, mais au-delà de Jupiter. Quant au point de Lagrange L3, il est un peu plus près du Soleil que la planète Jupiter, mais dans la direction exactement opposée à celle de la planète.
Ben, je vais t'avouer, c'est pas très clair pour moi.
Alors c'est simple. Si je regarde le Soleil depuis le point L1, j'ai Jupiter dans mon dos. Si je regarde le Soleil depuis le point L2, je vois Jupiter se projeter exactement devant le Soleil. Et si je regarde le Soleil depuis le point L3, ben, je peux pas voir Jupiter parce qu'il est exactement caché derrière le Soleil. On notera d'ailleurs que ces trois points ne sont pas réellement stable. On peut y placer un engin spatial, mais à terme, il finira par être chassé du point de Lagrange.
D'accord. Et les deux derniers points, L4 et L5 ?
Alors, eux sont beaucoup plus intéressants. Ces deux points se situent sur la même orbite que la planète Jupiter, 60 degrés en avance sur la planète pour le point L4, 60 degrés en retard pour le point L5. C'est là que l'on trouve une accumulation d'astéroïdes, les astéroïdes troyens. La raison est que ces deux points sont des petits puits de gravitation très stables. Si on y place un objet quelconque, il peut y demeurer durant des milliards d'années.
D'accord. On compte beaucoup l'astéroïde troyen de Jupiter ?
Alors, au 23 mai 2019, le Centre des planètes mineures dénombre 7079 astéroïdes troyens. 4603 d'entre eux précède Jupiter sur son orbite, au point L4, et 2476 le suivent au point L5. Jadis, le point L4 abritait les Grecs, ceux de l'Iliade, et le point L5 les Troyens. Mais il y a aujourd'hui deux exceptions. L'astéroïde 624 Hector est à tort chez les Grecs, et l'astéroïde 617 Patrocle, il se situe pour sa part à tort chez les Troyens.
On ne peut plus faire confiance à personne. Aujourd'hui, tous ces astéroïdes sont appelés troyens ?
Oui, on ne distingue plus aujourd'hui entre les Grecs et les Troyens. Ouais. C'est en février 1906 que l'astronome allemand Max Wolf découvre un premier astéroïde au point de Lagrange L4. Ils décident de le nommer Achille. C'est l'astéroïde 588, le nom du héros de l'Iliade.
Je suppose que ça a donné l'idée aux astronomes d'observer le point L5.
Exactement. En octobre, ils vont y découvrir Patrocle, l'astéroïde 617, un autre héros de l'Iliade. Le principe de nommer ces nouvelles familles d'astéroïdes en référence aux personnages de la guerre de Troie date d'ailleurs de cette époque.
Et on va en découvrir d'autres ?
Ah oui, de nouveaux Troyens sont découverts progressivement les années suivantes. 624 Hector en 1907, 659 Nestor en 1908 au point L4, puis 884 Priam en 1917 pour le point L5, suivront 911 Agamemnon en 1919 pour le point L4, et ainsi de suite. En 1950, on en connaissait déjà une douzaine.
Et personne n'en avait vu avant ?
Si. On pense aujourd'hui que l'astronome américain Edward Emerson Barnard observa l'astéroïde troyen, un astéroïde troyen en 1904, mais sa découverte passa totalement inaperçue.
Alors tous les astéroïdes troyens portent un nom, mais à force trouver un nouveau nom doit être difficile, non ?
Alors non, seulement 4915 astéroïdes possèdent une désignation définitive, mais ce n'est souvent qu'un numéro matricule. Okay. On ne peut plus donner des noms à tout le monde. On en comptait 170 en octobre 1999, 877 en juillet 2004, 1234 en mars 2008 et 4865 au 30 mai 2018 pour arriver au chiffre actuel de 7079.
Ouais. Et quel est le plus gros d'entre
eux ? Alors c'est 624 Hector, qui est un objet allongé de 370 km de long sur 195 km de large. Ça lui donne un diamètre moyen de 225 km. La base de données montre que 17 Troyens dépassent 100 km de dimension et près de deux tiers d'entre eux ont une taille qui dépasse 10 km.
Alors pourquoi y a-t-il beaucoup plus de Troyens au point L4, en avant sur Jupiter, qu'au point L5 ?
Alors oui, il semble qu'il y ait 1,4 fois plus d'objets au point L4 qu'au point L5. Des simulations numériques ont été faites où ont été prises en compte les attractions exercées par les autres planètes, depuis celle de Vénus, la Terre, bien sûr, et jusqu'à la planète Neptune. Il est ressorti de ce travail que les Grecs sont plus stables que les Troyens. Il semble que le puits de gravitation situé en L4 soit plus efficace que celui du point L5 et qu'il soit finalement plus facile de s'échapper du camp des Troyens que de celui des Grecs.
D'accord. Et que sait-on de la nature de ces astéroïdes ?
Alors justement, peu de choses, c'est là tout l'intérêt de la mission Lucie. Ah oui. Depuis la Terre, les observatoires en sont réduits à analyser la lumière que nous recevons d'eux dans les différentes longueurs d'onde. Il apparaît que ce sont des objets très sombres, probablement riches en carbone, et dont la composition suggère qu'ils se sont formés très loin dans le système solaire.
Alors, quels astéroïdes va étudier Lucie ?
Alors, c'est une mission complexe, très ambitieuse, d'une durée de 12 années. Puisque dans un premier temps, Lucie survolera un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes, situé entre Mars et Jupiter. Il s'agit d'ailleurs de l'astéroïde 52246, Donald Johanson. Rappelons que c'est cet anthropologue qui, avec Yves Coppens, a été à l'origine de la découverte du squelette de Lucie.
Et ensuite, combien de Troyens seront survolés ?
En principe, entre 2017 et 2033, 5 Troyens seront étudiés, 3548 Eurybate en août 2027, puis 15094 Polymel en septembre 2027, 11351 Leucos en avril 2028 et enfin 21900 Horos en novembre 2028. Tous ces objets se situent au point L4, c'est-à-dire chez les Grecs.
Mais sa mission ne s'arrêtera pas là, je suppose.
Ah non, Joël, la sonde va alors parcourir une étonnante boucle, une orbite en forme de boucle, qui va la ramener au voisinage de l'orbite terrestre.
Alors après avoir exploré les Troyens du point L4, la sonde Lucie va revenir au voisinage de la Terre ?
Oui, avant de repartir de nouveau vers l'orbite de la planète Jupiter, mais pour explorer cette fois le point L5, celui des Troyens. Okay. En mars 2033, si tout va bien, bien sûr, hein, elle devrait explorer l'astéroïde 617 Patrocle et sa petite lune Ménétios.
Certains Troyens ont des lunes ?
Oui. À ce jour, on a découvert des lunes autour de 5 Troyens de Jupiter. 624 Hector possède la lune Scamandrios. Hein. Les 4 autres sont des astéroïdes binaires, où les deux corps gravitent mutuellement autour d'un même centre et sont de taille comparable.
Et tous sont des objets rocheux ?
Alors, c'est pas sûr. Ah. Une étude menée par l'équipe de Frank Marquis et publiée en 2006 montre que la densité de l'astéroïde binaire Patrocle est inférieure à celle de la glace d'eau, ce qui suggère que ces objets, et d'ailleurs peut-être la majorité des Troyens, pourraient ressembler beaucoup plus aux comètes ou aux objets lointains de la ceinture de Kuiper qu'aux astéroïdes rocheux et ferreux de la ceinture principale. Ce résultat a d'ailleurs été confirmé par l'étude d'autres astéroïdes binaires.
Et comment peut-on expliquer cette faible densité ?
Eh bien, ça pourrait confirmer le modèle de formation du système solaire que l'on appelle aujourd'hui le modèle de Nice.
Ah oui, le modèle avec la théorie du grand TAC, c'est bien ça ?
Oui, dans cette théorie, les planètes géantes Jupiter et Saturne se sont formées très tôt dans l'histoire du système solaire. Mais elles n'ont pas toujours occupé la place que nous leur connaissons aujourd'hui. Elles se seraient formées très loin dans le système solaire et se seraient ensuite rapprochées du Soleil en entraînant avec elles leur cortège de satellites et de Troyens.
Alors les Troyens seraient donc des objets glaciaires très lointains qui auraient été contraints de suivre les migrations de la planète Jupiter au cours du temps.
C'est ça. Le même processus de migration expliquerait pourquoi il existe des objets glaciaires dans les ceintures d'astéroïdes, ce qu'on appelle les objets du groupe Hilda.
Alors ça me suggère une question, Bernard. Existe-t-il des Troyens du même genre sur les orbites des autres planètes géantes gazeuses, Saturne, Uranus ou Neptune ?
Alors oui, on connaît aujourd'hui 22 Troyens de la planète Neptune, la planète géante la plus éloignée du Soleil. Ici encore, il y en a beaucoup plus. 19 au point L4 pour seulement 3 au point L5. On ne connaît à ce jour qu'un seul Troyen de la planète Uranus.
Et au point L4, tu poses.
Exactement. Oui. Et on ne connaît pas de Troyen de la planète Saturne, sans doute parce que la présence de la planète Jupiter s'y oppose peut-être.
Alors, les points de Lagrange peuvent-ils aussi avoir un intérêt scientifique ?
Alors oui, bien sûr, on peut y placer des engins spatiaux qui, du fait de la stabilité des points de Lagrange, demeureront très longtemps là où on les a placés. C'est le cas du satellite SOHO, qui depuis des années observe le Soleil depuis le point de Lagrange L1 du système Terre-Soleil, à environ 1 500 000 km de la Terre, de nous, sur la droite imaginaire qui relie la Terre au Soleil. Mais on peut aussi placer un satellite en orbite autour d'un point de Lagrange.
Ah oui, c'est surprenant, un satellite qui gravite autour d'un point mathématique où il n'y a rien.
Eh oui, et ce sera le cas bientôt, espérons-le, du télescope géant James Webb, qui observera le ciel depuis une orbite centrée sur le point de Lagrange L2, c'est-à-dire un petit peu plus loin que la distance de la Terre au Soleil, mais ça, si tout va bien.
Alors en attendant, bon vol à Lucie, au revoir à toutes et à tous, au revoir Bernard, et à bientôt pour un nouveau Juste Ciel.
Au revoir Joël.